le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Est-ce que vous étiez mieux dans votre cellule?
Sarah Connor.
C'est à côté.
Bah là, on joue là, c'est sérieux.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple, d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bienvenue dans cette seconde émission des Voix du Scénarium. J'espère que la première vous a convaincu et que vous prendrez plaisir à nous écouter de manière régulière. Vous noterez que cette émission sera en constante évolution et que ses éléments pourront prendre des formes diverses, s'améliorer au fil du temps. Pour commencer l'émission de ce soir, c'est Nadège qui nous parle de sécurité émotionnelle.
La sécurité émotionnelle en JDR, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'ensemble des pratiques et des techniques qui permettent de s'assurer que tout le monde va bien autour d'une table de jeu. Il en existe beaucoup, mais la plus connue est sans doute la X-Card. Vous savez, ce X posé sur la table, qui permet à n'importe qui de signaler que le sujet abordé le dérange. Ce petit X qui a déchaîné et déchaîne encore les passions. Aujourd'hui, je voudrais poser la question, pourquoi la sécurité émotionnelle? À quoi ça sert exactement? Quand je suis meneuse de jeu, mon but premier c'est que tout le monde s'amuse. Le jeu de rôle est avant tout ça, un jeu. Si mes joueurs et joueuses viennent à ma table, c'est pour passer un bon moment. Un bon moment, ça ne veut pas forcément dire que l'on joue à des histoires feel-good à la Tales of Equestria, le jeu de rôle Mon Petit Poney. On peut tout à fait passer un bon moment en jouant à Curse of Strahd, la campagne d'horreur gothique de Donjons et Dragons, ou Mutant Year Zero, un jeu post-apocalyptique qui va en faire voir de toutes les couleurs aux personnages. Aux personnages. Pas aux joueurs. Les personnages vont peut-être souffrir. Les joueurs et joueuses sont là pour s'amuser. Et ce ne sera pas le cas si un des termes abordés les stress. Évidemment, quand je joue à un jeu un peu dur, je connais mes joueurs. Je sais ce qui peut les mettre mal dans les grandes lignes, et je vais éviter d'aborder ces sujets. Si l'un d'eux est terrifié par les blessures aux mains, personne ne sera blessé au moins de toute la campagne, personnage, PNJ ou antagoniste. Mais il m'arrive de jouer en convention, ou de commencer une partie avec des nouveaux joueurs, des gens dont je ne connais pas les limites. Il peut m'arriver aussi de toucher, sans le savoir, à une limite que j'ignorais jusqu'à présent. On ne connaît jamais parfaitement quelqu'un, et ce genre de choses arrive. Un problème de sécurité émotionnelle, ça peut aller du malaise passager pendant une scène qui nous touche à un vrai mal-être qui peut durer plusieurs jours. Ça peut dégoûter une personne du JDR, alors qu'une communication plus efficace aurait permis d'éviter ça. Vous me direz sans doute, oui, d'accord, mais c'est très rare ce genre de choses. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, je n'ai jamais eu le moindre problème. C'est tout à fait possible. Et c'est absolument génial. Savoir jouer de manière à éviter ce genre de choses, c'est très important dans notre loisir. Mais c'est là que le deuxième versant de la sécurité émotionnelle entre en jeu. Il n'y a pas si longtemps, en jouant à Unknown Armies, un jeu d'horreur moderne avec un petit peu de magie, j'ai été mise particulièrement mal à l'aise par une description très réaliste d'un abattoir. Je venais de rejoindre ce groupe, et le maître de jeu connaissait tous les autres joueurs qui n'avaient pas de problème avec ça. Et comme personne n'avait de problème avec ça, j'ai pas osé en parler. Cette description ne concernait même pas mon personnage, de toute manière. Alors, quel droit avais-je, en tant que petite nouvelle, de demander à décrire moins en détail cet abattoir ? La réponse, évidemment, est tous les droits du monde. Et je le savais, mais je n'ai quand même pas osé. La pression sociale, c'est une force extrêmement puissante, et exprimer son malaise ne va vraiment pas de soi. Alors, on fait semblant de s'amuser, et peut-être sans se rendre compte que les autres eux-mêmes font semblant. Utiliser de la sécu émotionnelle, ce n'est pas une méthode miracle, mais ça donne un cadre et une légitimité à s'exprimer, qui va faciliter la prise de parole. Un autre cas où la pression sociale peut s'exercer, c'est quand une nouvelle limite apparaît dans un groupe qui se connaît bien. Ce sont des choses qui arrivent, parce qu'on est fatigué, parce que le professeur a donné trop de devoirs, parce que le boss était nerveux au travail. Pour aucune raison en particulier, quelque chose qui d'habitude ne nous dérange pas nous paraît aujourd'hui très violent. Ce n'est pas la première fois, par exemple, que la meneuse décrit les ruines d'un village ravagé avant que les personnages ne puissent arriver. Mais c'est la première fois que cela nous dérange. C'est dans ces moments-là, quand on se découvre une nouvelle limite, qu'elle soit temporaire ou là pour durer, qu'il est très important d'en parler. Puisque ça ne nous a jamais posé de problème, personne ne va s'en rendre compte si on ne dit rien. Et si personne ne s'en rend compte, plus le temps passera, plus ce sera difficile de dire stop. Comme avant, de nombreuses méthodes de sécurité émotionnelle permettent de poser un cadre qui va faciliter cette communication. Ce que je vois souvent reprocher à la X-Card, c'est qu'elle permet aux joueurs d'éviter de confronter leur personnage à une difficulté. De tricher, purement et simplement. Et c'est un point de vue tout à fait valide. C'est vrai que ça permet d'esquiver un sujet. Mais ce n'est pas le but de ces méthodes. Au contraire, elles sont là pour permettre d'aborder des thématiques difficiles sereinement. Par exemple, dans les jeux d'horreur où on va jouer avec le malaise provoqué par les situations. En permettant à un joueur de signaler quand ça ne va pas, elles me permettent de jouer à des jeux comme Unknown Armies, dont le principe même est de jouer avec l'horreur réaliste de l'humanité. Mais si vous jouez avec des gens qui sont susceptibles d'abuser de la carte X, sachez que c'est un système qui est loin d'être parfait. Il existe de nombreuses méthodes, plus ou moins intrusives, qui permettent de contourner ou de limiter ce genre de problème. J'en parlerai dans de prochains épisodes. En attendant, puissent vos histoires être riches et vos jeux agréables.
Une chronique qui reviendra régulièrement pour aborder des sujets autour de cette thématique complexe et qui nécessite d'y réfléchir. J'en remercie Nadège d'avance. Comme déjà initié avec la première émission, je vais vous faire un tour des financements participatifs qui, me semble, vaillent le coup pour vos loisirs favoris. Le premier, c'est Herbalist Primer, disponible en anglais sur le site Kickstarter. Qu'est-ce que c'est Herbalist Primer ? Eh bien, c'est une sorte d'herbier, mais qu'il va être possible d'utiliser dans du jeu de rôle. On nous annonce 100 plantes, avec des vertus médicales ou magiques, des poisons, des antidotes, des recettes pour des potions et des onguents, le langage des fleurs et des petites graines d'aventure à découvrir dans cet ouvrage. Porté par Exalted Funerals, le projet permet de jouer dans n'importe quel univers. C'est pas coincé avec un système de jeu complet, ça permettra de jouer dans les univers que vous voulez. Le bouquin remporte un petit succès puisque, à l'heure où j'enregistre ces mots, à savoir 3 jours avant la fin, l'ouvrage a collecté 546 460 euros sur un objectif initial de 8 539, ce qui est plutôt pas mal. Donc à surveiller si vous aimez les plantes et puis si vous avez envie d'intégrer simplement un bouquin qui m'a l'air fort joli qui j'espère sera disponible dans une version française. Je vous avoue que j'ai pas trouvé l'info sur le site. On peut noter aussi sur la plateforme Ulule le reboot de Hawkmoon. Une campagne qui s'est terminée le 4 juin 2021. Hawkmoon, c'est un jeu mythique basé sur les romans de Michael Moorcock. Si je ne me trompe trompe pas, si je dis pas de bêtises, on avait un objectif initial de 15 000 euros et ça a rassemblé 181 361 euros pour son porteur de projet qui s'appelle le département des sombres projets. Pour ceux qui ne connaissent pas Hawkmoon, c'est un jeu de fantasy post-apocalyptique. Ouais, c'est un peu bizarre, mais il faut imaginer en fait qu'après un apocalypse, eh bien, le monde est revenu aux temps médiévaux et qu'on peut retrouver parfois certains ersatz de technologie qui sont utilisés un petit peu comme de la magie dans ces univers. Michael Moorcock est un auteur assez prolifique, à qui on doit notamment Elric, un jeu qui a eu sans doute, alors je veux pas dire de bêtises, hein, mais beaucoup plus de succès que Hawkmoon, même si ils suivent une sorte de schéma narratif, une sorte de boucle temporelle avec des héros qui sont censés représenter des grandes vertus à travers certaines périodes. On trouvera également sur le site Game on Tabletop le financement des saisons 7 et 8 l'actuel play Roll and Play, l'actuel play de chez Black Book Edition, un Roll and Play qui avait besoin d'un petit peu plus de boost, de quoi aussi aider au financement participatif du jeu de rôle Roll and Play, un jeu qui sera vraisemblablement basé sur la 5e édition du plus fabuleux de jeu de rôle, du plus connu de jeu de rôle, du plus ancien de jeu de rôle, qualifiez-le comme vous voulez, hein, c'est celui où il y a des donjons et des dragons. Là, ce qu'on devrait avoir, c'est une offre, on va dire, assez classique, avec un livre de base et puis des livres complémentaires, un livre du joueur, livre de la meneuse, c'est le terme choisi, un écran, une boîte d'initiation et puis des campagnes où je ne sais pas trop ce que c'est que les plaies ouvertes. Je vous avoue que je n'ai pas poussé le vice ni le détail jusqu'à vraiment chercher et fouiller et comprendre ce que c'était. Enfin bref, si vous souhaitez soutenir l'actual play Roll and Play, si vous souhaitez soutenir ce projet de jeu de rôle, eh bien écoutez, n'hésitez pas, ça se déroule sur la plateforme Game on Tabletop et il vous reste 14 jours. Il faut savoir qu'actuellement, ils ont recueilli plus de 1069% du montant qui était demandé à l'origine, à savoir 20 000 euros. On reste sur Game on Tabletop avec Chronique Oubliée. Chronique Oubliée Cthulhu, hein, ça tombe bien, on est un petit peu dans la thématique sur cette émission. Il vous reste juste deux jours, à peine deux jours au moment où vous allez écouter ces lignes. Il faut savoir que la boîte qui est la seconde boîte en fait pour Chronique Oubliée Cthulhu a recueilli 471% de son montant de départ, ce qui correspond à 47 000 euros. Il reste 24 heures. Je pense qu'il vous restera peut-être une petite heure ou deux au moment où cette émission se finira pour pouvoir y participer. Cette seconde boîte, nommée Quintessence, va reprendre le nécessaire. Il s'agit d'une campagne pour des personnages de niveau 5 à 9 sur près de 200 pages et avec 4 ou 5 livrets qui vont vous permettre d'avoir des heures et des heures de jeu. Je pense que ça va être quelque chose d'assez phénoménal. Il faut savoir que si vous n'avez pas la première boîte de jeu, vous ne pourrez pas jouer avec l'extension puisqu'il n'y aura pas de règles visiblement dans cette deuxième boîte visiblement le matériel aussi de la première boîte qui sera tout ou partie réutilisé, ce qui devrait être plutôt confortable et plutôt agréable mais pas indispensable visiblement. Moi je vous invite à, si vous n'avez pas joué à Chronique Oubliée Cthulhu, procurez-vous cette première boîte. Je veux pas critiquer, hein. Maintenant c'est pas le but, mais c'est selon moi la meilleure boîte pour démarrer le jeu de rôle au niveau matériel complet. C'est vraiment bien foutu et puis j'avoue que cette deuxième boîte me fait beaucoup envie, mais on aura l'occasion de voir ça plus tard. Et pour finir, je parlerai d'un financement participatif qui s'est terminé le 4 août 2021 sur la plateforme Game on Tabletop, encore une fois. Mais un jeu de rôle qui n'est pas une nouveauté, puisqu'il s'agit du reboot, remake, appelez-le comme vous voulez, nouvelle édition de Château Falkenstein. Alors si vous ne savez pas ce que c'est Château Falkenstein, imaginez quand même que c'est ce qu'on peut appeler le grand papy du jeu de rôle steampunk. C'est un univers dans lequel vous pouvez trouver des races de fantasy, des nains, des elfes, des dragons, mais aussi des personnages de fiction comme Frankenstein, Dracula, Sherlock Holmes. Tout ça dans un univers qui correspond à des années 70, mais avec une technologie beaucoup plus développée et basée sur la vapeur. Imaginez que dans ce monde-là, il y a aussi de la magie et un code d'honneur qui permet de gérer un petit peu tout ce beau monde. Le financement a été un grand succès puisqu'il est fini à plus de 800% et Lapin Marteau, le porteur du projet, a décidé de ne pas faire dans la dentelle puisqu'ils ont prévu pas moins de 3 suppléments. Ça ce sont pour les suppléments, mais il faut savoir qu'il y a un livre de base qui est prévu pour avoir plus de 300 pages avec plus de 50 illustrations originales, une carte complète au format A2 en couleur et un écran 3 volets avec une nouvelle illustration originale et bien sûr au dos tout ce qui permet au maître de jeu de gérer sa partie. Donc un financement participatif extrêmement intéressant pour tous les fans de ce jeu qui a fait évoluer notre loisir dans le bon sens. Pour continuer, je vous propose une interview en 2 parties enregistrée lors du Lazarfest à Angers. Dans la première partie qui diffusait ce soir, Jérôme Verschuren nous parle de son parcours de ses débuts de rôliste jusqu'à son poste de directeur éditorial sur Pax Elfica. Bonjour Jérôme Verschuren, c'est comme ça que ça se prononce?
Tout à fait, oui.
Ok. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer comment tu en es venu au jeu de rôle et d'où tu viens?
Alors j'ai commencé en classe de seconde, ce qui par rapport à mes collègues est extrêmement tard, parce que tous ils racontent qu'ils ont commencé à 10 ans, à 11 ans, enfin c'est une catastrophe. Donc moi j'ai commencé à 16 ans avec Advanced Dungeons & Dragons. Mais avant, j'étais à fond sur les livres dont vous êtes le héros, donc évidemment Loup Solitaire, Loup Ardent, dès que ça sortait, je les achetais. Donc c'est mon passif, il est là. Après, c'est les visions de Conan le Barbare assez jeune. Je pense que c'était pas une bonne idée, forcément, théoriquement, mais c'était génial. Donc j'étais à fond là-dedans. Alors, on a beaucoup joué à D&D, ensuite on est tombé dans Cthulhu, donc tu vois, sur les classes de lycée, entre la seconde et la terminale. Enfin, vraiment un parcours classique. Sans surprise. Et après, voilà, on a joué à Cult, on a joué à Changelin, à Mage, toutes ces choses-là. J'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai rencontré Jean-Luc Villain-Campa, Arnaud Cuidet, quand j'écumais Phénomène J, la célèbre boutique parisienne, hein, qui ne rouvre pas. Et donc c'est là où on a commencé à avoir quelques contacts avec des auteurs, je dirais. Il y avait des auteurs qui venaient pour faire tester leur jeu sur les parties d'initiation. Moi-même, j'avais fait 2 ou 3 parties d'initiation de certains jeux. On est devenu très copain avec Arnaud Cuidet, qui lui a tout rapidement écrit dans Cassius Belli. Voilà, après ça s'est tassé, j'ai plus fait de jeu de rôle pendant un moment. Et puis c'est revenu, je crois que c'est de la faute, enfin ça dépend. J'ai rencontré Claude Guéant, là, pas le Claude Guéant que vous connaissez mais l'autre, hein, donc l'auteur de Pax Elfica, à l'armée en 2000. On a eu la chance d'être tous les deux dans la même galère, exactement au même moment. Et lui en plus il était très très loin de chez lui. Donc il était déjà rôliste, on a beaucoup joué, on a tout de suite écrit ensemble en fait. Très très rapidement on a fait un background pour Londres, pour Mage. Lui il avait un site qui s'appelait Il faudrait d'autres mondes. À l'époque il n'y avait pas beaucoup de sites web en 2001, donc il avait son site Mage qui était très connu. Et en fait lui il a travaillé pour Nephilim. Alors je vais beaucoup parler de lui, c'est pas bien, mais voilà, il a travaillé pour Nephilim pour un fanzine, ce qui fait qu'après ils ont vu qu'il écrivait bien, donc il a fait Nephilim Initiation. Donc après il était recruté chez les 12 singes, à la création des 12 singes, pour faire les règles de Trinité, voilà, qui est le jeu 12 singes qui a commencé. Et puis du coup il était dedans, donc moi j'ai commencé à faire quelques relectures, à donner des conseils pour les scénarios, et puis au final j'ai commencé à écrire pour les 12 singes en même temps que, d'un autre côté, Arnaud Cuidet était devenu rédac chef de Dragon Rouge pour la sortie de Donjon 4 en France chez Play Factory, et qui m'a demandé d'écrire des scénarios donjons. Donc j'ai commencé l'écriture de jeux de rôle de ces deux façons-là en parallèle en fait. J'écrivais pour les 12 singes plutôt de la technique, j'écrivais de la technique Donjon 4, pour Alchemy j'écrivais des scénarios, et pour Arnaud de l'autre côté j'écrivais des gros scénars déjà avec des jauges, avec des fins multiples, etc. Et puis les 12 singes au bout d'un moment m'ont dit bah, écoute Jérôme, on aimerait bien que tu construises un jeu, que tu fasses un jeu qui est devenu du coup une collection, parce que moi je voulais un jeu qui se joue facilement, parce qu'on avait un certain âge, des enfants, tout ça, et on pouvait plus faire les parties comme on faisait avant, donc j'ai voulu faire la collection qu'on a appelée clé en main, c'est-à-dire que le MJ lit son livret, les règles sont simples, dès qu'il a les joueurs, il leur présente les prêts tirés, ils choisissent, 10 minutes après ils jouent, c'est plié quoi. Voilà. Et donc on fait 5 parties de 4 heures et on peut jouer, on va au bout d'une histoire, on a fait notre campagne, on a une expérience complète, on s'est marré et c'est rentré dans l'emploi du temps. Voilà. Donc c'était le but. Donc j'en ai écrit 3, j'en ai dirigé un. Après j'ai travaillé pour plein de trucs des douces, hein. J'ai fait plein de scénarios pour des trucs, des trinités, des boîtes d'initiation, mais je me souviens plus de tout. Et ce qui s'est passé, c'est que Claude nous faisait beaucoup jouer. Au moment où on jouait plus beaucoup, mais Claude venait à la maison, il nous faisait jouer des campagnes qui sont toutes super bien, parce qu'il est très très doué. Et il nous a fait jouer Pax Elfica avec le système clé en main, donc. Et j'ai trouvé ça vraiment super génial. Et je lui ai dit, celui-là, il faut vraiment qu'on le fasse bien. Et il faut pas qu'on le fasse dans le format habituel de mes clés en main à moi. Alors moi, j'aime bien parce que je suis un peu particulier, mais j'aime bien les trucs super concis, et sur mes clés en main c'est hyper concis, voilà, ça tient dans 64 pages, il n'y a rien qui dépasse, c'est vraiment c'est pesé. Mais là je lui dis non, faut qu'on y aille franco, faut pas que ce soit du noir et blanc, faut pas que ce soit du petit format, faut que ça pète, faut qu'il y ait de l'illustration, il faut pas se limiter à clé en main, faut faire un crowdfunding, voilà, faire tout ça, et il faut un investissement financier conséquent. Donc on a regardé un petit peu de combien d'argent disposaient tous les deux. C'était pas possible du tout parce qu'on disposait d'à peu près rien, donc on s'est dit ben voilà, on va aller voir les 12 singes, et puis c'est pas trop leur cam habituellement, les gros formats comme ça, même s'ils avaient quand même fait l'affaire Deleuze. Et du coup on est allé les voir, donc moi je me suis occupé de la direction éditoriale, comme ça Claude il fait que écrire, je l'ai enchaîné dans sa cave et puis il a fait que écrire et réviser ses textes. Et donc on a négocié avec les 12 singes, effectivement, un projet qui un peu hors norme par rapport à ce dont ils avaient l'habitude, mais bientôt je pense que ça sera un peu leur quotidien, hein, avec effectivement un gros risque qu'ils ont pris, ça n'a pas été facile, hein, par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Moi j'y croyais, j'y crois toujours à fond, puis de toute façon bah, j'ai eu raison, donc tant mieux. Et on l'a fait. Alors du coup j'ai recruté une équipe, et moi je voulais Elvire au dessin, parce qu'Elvire en plus elle a des couleurs extraordinaires, et là ça tombait super bien sur les ambiances des elfes avec les teintes automnales et tout, elle fait ça, enfin elle a un certain talent. Je voulais plein de PNJ parce que j'aime bien ça, et je voulais qu'ils aient des trognes, je voulais pas qu'ils aient des gueules d'elfes standard, ou voilà, ça me plaît pas. Donc j'avais déjà un petit peu travaillé avec Christophe Swal, qui est super talentueux aussi, et du coup je voulais du noir et blanc. Alors après il y en a toujours qui discutent en disant mais il y a des trucs couleurs, des trucs noir et blanc, moi je trouve que ça s'inscrit super bien. Et donc les PNJ ont vraiment des super têtes, ça marche super bien. Il a fait aussi des plans, parce qu'à l'époque je travaillais chez Dragon Rouge, il faisait les plans. En fait on avait un scénario et un poster avec on appelait ça un battle map, un machin tactique, je sais plus comment on disait, bref. C'est lui qui les faisait, et il faisait ça vraiment super bien. Donc je lui dis, te rappelles-tu, ça fait longtemps, mais j'aimerais que tu me fasses la même chose, cette fois-ci pour Pax Elfica. Et donc il nous a fait, je sais plus moi, 14 plans, 15 plans, je sais même plus. Maxime Place, qui fait partie des singes, a fait la carte de la ville, c'est un cartographe très talentueux. Maxime, il a gagné plein de prix, et effectivement, ça se voit. Donc une sorte de dream team avec un copain, Sébastien, qui habite pas très loin de chez moi, Sébastien Lotel, qui fait la maquette. Il avait déjà fait la maquette de mon dernier clé en main, qu'il avait vraiment, vraiment très très réussi. Donc j'avais toute confiance, et encore une fois, j'avais raison. Alors j'ai dû oublier des gens, mais globalement, voilà, on a réussi à avoir une dream team, on a réussi à avoir un budget qui correspondait à ce que les 12 singes voulaient, et puis on s'est lancé dans le truc, et puis ça a marché.
Alors j'ai une question, moi, c'est quoi le directeur éditorial de Pax Elfica? Ouais.
Alors c'est compliqué. Sachant quand même pour dire que à un moment donné j'avais fait la direction éditoriale des clés en main, je l'ai fait une seule fois, et après j'ai dit j'arrête, parce que moi je suis un contrôle freak, comme on dit. Et en fait, s'il y a une phrase qui me va pas, je peux pas la laisser telle quelle. Il faut la changer. Voilà, j'ai ce problème-là. Alors, quand c'est sur mes textes, c'est pas un problème, j'emmerde personne. Mais quand c'est avec d'autres auteurs, ça peut poser problème. Donc moi, j'ai pu faire ce travail-là que parce que c'était Claude, et qu'avec Claude, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, et je peux lui dire ce que je pense, et puis il peut me dire ce qu'il pense aussi. Donc il y a aucun problème, tout ça est franc. Donc moi, j'y vais, quoi. Voilà, sur le 1,8 million de... C'est 1,8 million signes. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de révisions. Ça a pris un temps fou. Je saurais même pas dire combien de temps, en fait. Hein. Donc, je suis intervenu sur le texte, mais vraiment... Hein, vraiment, enfin, vraiment beaucoup. Je parle vraiment sur la forme, hein, d'accord ? Parce que c'est vraiment le jeu de Claude. Hein. Alors, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Mais effectivement, j'ai tout questionné. Après, les questionnements classiques. Et si les PJ font ça, du coup, dans le truc, t'es sûr que ça marche encore ? Mais pas seulement, quoi. Genre, on a vraiment réfléchi sur la forme, plutôt la structure... ludique, comment fonctionnent les jauges, comment est-ce qu'on l'écrit au MJ. C'est une réflexion qu'on aime beaucoup, c'est comment est-ce qu'on présente les choses au MJ. Moi, j'aime bien la redondance, par exemple. Une information, si elle est importante, on ne va pas l'avoir qu'une seule fois, on va l'avoir peut-être à deux endroits différents, parce que c'est deux endroits logiques sur lesquels le MJ peut être pointé. Et éventuellement, on peut le présenter de manière différente. Enfin bref, toutes sortes de réflexions qu'on a ensemble, qu'on a mis en place. Ça, c'était plutôt, je dirais, un travail en commun. Le reste de la direction éditoriale, c'est choisir l'équipe, la monter, convaincre l'éditeur. Travailler les briefs, travailler les corrections sur tout, hein, sur la maquette, sur les illustrations, sur les machins. Sur les plans, ça a été long parce qu'on a fait des erreurs avec Claude, il faut dire. Enfin, surtout moi, j'ai fait des erreurs. Donc, quand tu fais en erreur dans un brief et que tu revois le plan et que tu dis, bah, ça va pas et que tu vois qu'en fait, c'est de ta faute, bah, c'est un peu pénible. Donc, Christophe, qui est super gentil, bah, ça s'est vachement bien passé. Parce que c'est un super professionnel et qu'il est très gentil. Mais voilà, il faut tout revoir tout le temps, tout corriger, tout vérifier. Et puis il a fallu faire toute la com. C'était pas rien et c'était plutôt réussi parce que le crowdfunding a très bien commencé. Et j'ai aussi géré le crowdfunding, ça veut dire faire tous les textes, prévoir tous les visuels, les choisir, les sélectionner, les faire, les récupérer. Répondre aux questions dans le crowdfunding, même si, oui, j'ai pas dit, mais on avait quand même un chef de projet avec nous, quand même, s'il va faire la gueule, il aurait raison. C'est Jérôme Barthas des Douze Singes qui était notre correspondant Douze Singes attitré. Voilà. C'est-à-dire que s'il y avait des problèmes d'argent, c'est avec lui que je voyais, puis c'est lui après qui voyait avec les autres et qui me disait ce qu'il en était. Donc en tant que chef de projet, effectivement, c'est lui qui avait la main sur le crowdfunding. Parce que moi je fais partie des singes, donc j'ai pas les codes ni rien. Donc lui aussi a beaucoup répondu. Donc lui, il s'occupait plutôt de la partie les envois, l'impression. Parce que c'est pareil, moi je suis pas chef de fabrication, donc ce qui est un métier à part et c'est pas simple. Donc effectivement, c'est lui qui était aussi mon interface avec l'imprimeur pour savoir ce qui était possible de faire ou pas et les tarifs. Hein, parce qu'à un moment donné, on aurait pu faire plein de choses. On aurait pu faire des pions pour les PNJ à mettre sur les plans, enfin toutes sortes de choses. Mais il a fallu être sûr que qu'on ne coule pas la boîte en fait. Hein. Parce que le problème des crowdfunding, c'est les gens quand ils voient qu'un crowdfunding éclate tout, on va dire, ça fait peut-être 100 000 euros, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est une petite boîte, peut-être que ça va la couler en fait. Parce que derrière, il y a des frais, il n'y a pas que des économies d'échelle quand on réussit un crowdfunding. Il y a aussi des frais qui se rajoutent qu'on n'avait pas prévu. Parce que du coup, les envois, peut-être qu'on ne va pas pouvoir les faire nous-mêmes. On avait prévu de faire ça nous-mêmes tranquille. Et en fait, on est une petite structure, on se retrouve à faire, je sais pas moi, 700 envois, mais on va être obligé de payer des gens pour le faire. Et là, on se rend compte de ce que ça coûte, on ne l'avait pas prévu, et on se rend compte qu'en fait, ça passe plus. Donc voilà, c'est assez compliqué à gérer parce que le crowdfunding Pax Selfica, moi je l'avais estimé entre 35 et 40 000 euros et au final on a fait 70 000. Donc il a fallu créer des paliers supplémentaires, je dirais à l'arrache. Mais on avait quand même, ouais, des fois c'était un peu à l'arrache, mais je dirais une journée dans le pire des cas, puis des fois un peu plus. Et voilà, il fallait tout de suite faire une étude financière. Moi, il me faut un devis de l'imprimeur, il faut qu'on décide qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on gagne, est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est pas risqué. Et puis après, il y a les gens qui participent au crowdfunding qui mettent beaucoup de pression pour certains trucs sans se rendre forcément compte de ce que ça représente. D'accord ? Donc il faut réussir à aménager la chèvre et le chou, et puis surtout, il faut aussi être capable de mener le projet au bout, parce que plus on rajoute de choses, et plus on prend de retard. Et moi, j'étais assez sûr qu'on pourrait livrer à l'heure. Et tu vois, on n'a pas livré à l'heure. On a eu, 4 mois de retard sur notre date vraiment limite. Donc, on va dire 6 mois de retard en moyenne. Ce qui n'est pas beaucoup pour un crowdfunding, mais ce qui, quand même, m'a bien gonflé, quand même, de ne pas être capable d'arriver au bout. Et ce n'était pas la faute d'une personne. Ça pourrait. Hein. C'était vraiment hyper global, quoi.
Il faudra patienter pour avoir la suite de l'interview la semaine prochaine, ainsi qu'un review, une petite critique sur l'ouvrage Pax Selfica. Pendant que nous installons le monde et chauffons le scénarium, ou l'inverse, Nous vous invitons à une légère pause musicale avec Nanowar of Steel et la chanson L'appel de Cthulhu.
Hey do, you call a call and I'm called too.
Do you feel beyond good and evil today?
I have a complaint about my great ancient action figure.
Oh, but does it smell bad? Because it's one of our key features. It's really
No. It's just that makes me wanna get naked and kill my neighbor.
Okay, hold on 1 minute, please.
Hello?
Hey do, you call the call and I'm called too.
Lors de l'épisode précédent, nous avions laissé les voix dans une situation plutôt délicate. Résumons un peu. Écosse, année 1900, un lord, son intendante, son psychanalyste et un journaliste sont en partance pour l'inauguration d'une distillerie. Lors du voyage en bateau, une tempête se déclare, laissant ces braves gens échouer sur une île loin de leur destination. Sur place, un phare éteint, un gardien absent et une sombre histoire de malédiction. Reprenons le cours de l'histoire.
Déjà, nous, on retourne à l'abri avec Miller.
C'est ça, on revient, ouais.
En nous expliquant qu'on n'a rien trouvé, tout simplement. Désolé.
Bon, mettez devant le poêle qui commence à reflamber un petit peu, histoire de vous réchauffer un petit peu.
Comment allez-vous, Bonnie, Monsieur Harrington ?
Très bien.
Écoutez, cela va, mais voyez-vous, j'ai trouvé une histoire locale qui semble assez cocasse et qui répondrait peut-être à certaines de nos questions. Je ne sais pas si c'est lié vraiment. Après tout, je ne suis pas superstitieux, moi. Mais voyez-vous, une histoire de suicide d'un mari disparu du Brickelpiert.
Brickelpiert ?
C'est étonnant, donc je leur fais part de cette histoire que tu viens de me conter.
Ok. En effet, c'est cocasse.
Au moment où tu annonces le nom, si quelqu'un a des compétences en mythologie ou folklore.
Moi, j'ai histoire.
Histoire. Effectivement, le Brickelpiert, ça te parle. C'est plutôt. Donc, Brickelpiert, c'est un nom d'ancien navire, en fait, typique de l'Écosse. Et Kelpiert, c'est le nom écossais, en fait, des Kelpies.
Ah oui.
Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une kelpie? Tu pourrais l'écrire aux autres.
C'est une espèce d'être féerique.
C'est ça. C'est une sorte de cheval ondin, c'est un cheval aquatique. Il y a plusieurs légendes au sujet des kelpies. Soit sont des êtres absolument bénéfiques qui essaient de sauver en fait les naufragés, soit c'est complètement l'opposé, ce sont des équivalents de sirènes écossais, c'est-à-dire qu'ils chantent ou ils narguent les naufragés pour les emmener dans les fonds et les dévorer.
Encore des légendes ridicules.
Oui, ça fait partie du folklore. Il y a beaucoup de légendes de ce type-là dans notre contrée.
C'est vrai. J'ai fait quelques articles là-dessus.
Et effectivement, il vous raconte cette histoire de cette femme qui se serait jetée du haut du phare pour le maudire suite à la disparition de son mari en mer.
C'est tragique.
C'est vrai. Mais ce phare est peut-être maudit, mais pour l'instant, c'est notre seule œuvre et je suis bien content de l'avoir trouvé.
Un phare maudit. Quelle belle histoire.
Déjà, nous le rallumerons tout à l'heure. Déjà aussi, madame, comment allez-vous?
Mais très bien.
Et où en êtes-vous, surtout?
Bien, je suis en train de finir de préparer votre repas, messieurs. Ah. Et le feu brûle dans l'âtre, donc n'hésitez pas à vous rapprocher pour vous réchauffer.
Merci. Ah.
Mais entre deux coups de cuillère, quand même, étant quand même une bonne gouvernante, connaissant un peu le fait que les gens aiment cacher des choses chez eux, je vais essayer de regarder plus en détail ce qui nous entoure pour trouver, une cachette, puisque Mylord et Monsieur Stanford n'ont rien trouvé à l'extérieur. On a toujours les effets du gardien de phare. Il s'est peut-être caché à l'intérieur.
Ok.
Mais,
c'était le réfugié.
Alors là, tu peux me faire un petit jet de toc. Donc, trouver objet caché.
Ah bah non.
Tu fais le tour du phare, alors t'es pas sûr en fait qu'il n'y ait pas quelque chose. T'as utilisé toutes les ressources que tu connais, mais tu penses que s'il y avait quelque chose de bien caché, ce serait certainement mieux caché que ça. Mm-hmm. T'es pas sûr d'avoir trouvé ou qu'il y a quelque chose, bêtement.
D'accord.
Par contre, t'as trouvé effectivement d'autres provisions qui étaient un petit peu plus loin, qui étaient cachées.
Il y avait du whisky dedans.
Non, il n'y a pas de whisky.
Si, j'ai trouvé le whisky de mauvaise qualité, là, mais bon...
Il avait peut-être planqué le bon whisky.
Un genre de scotch.
Écoutez, pour l'instant, on va se poser. Moi, ce que je propose, c'est que dans mon journal, je vais commencer à rédiger un article sur ce qui nous arrive, parce que, une fois que les secours nous auront...
Secouru.
Trouvé, nous auront trouvé, ça fera un bel article, une belle histoire.
Mais, voyez-vous, déjà, j'ai découvert aussi qu'il fallait du mercure pour allumer le phare, il devrait y en avoir là-haut. Et vous cherchiez, vous posiez la question d'où était passé cet homme qui garde le phare, ce gardien de phare. Il y a de la lumière, je vous rappelle, là-bas. Peut-être que simplement il est parti, mais pourquoi serait-il parti sans son ciré et ses bottes? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est parti la veille avant la tempête.
Peut-être en avait-il deux.
Peut-être qu'il en avait deux, mais peut-être qu'il est resté coincé là-bas du fait de la tempête.
C'est possible, nous verrons. Ouais. Nous pensions avec Miller attendre que la tempête se calme avant de l'explorer. Vous pensiez à une chapelle, c'est ça?
Si mes souvenirs sont bons, effectivement, sur ce roc, il n'y a que deux bâtiments de construction humaine, ce phare et puis une petite chapelle de l'autre côté.
À moins que l'homme se soit noyé, il est forcément là-bas. Donc resterons-nous, discutons, puis quand tout se sera calmé, nous irons voir le gardien de phare. Peut-être nous aidera-t-il à rallumer le phare, parce que je ne suis pas très à l'aise avec les technologies.
Un gardien de phare qui, en pleine tempête, même à l'autre bout de l'île, n'aurait pas bravé tous les éléments pour aller rallumer son phare?
Peut-être une incommodité, peut-être n'allait-il pas bien.
Peut-être qu'il était malade.
C'est ça. Peut-être avait-il mal digéré son ragoût. Et que ses seules toilettes sont dans la chapelle. Ce qui n'est pas pratique, je suis d'accord, mais bon, je n'ai pas trouvé de toilette ici en tout cas.
En tout cas, s'il y a de la lumière dans la chapelle, c'est probablement que quelqu'un vit, ou en tout cas est réfugié là-bas actuellement.
C'est probable. Mais là, y aller avec cette tempête serait au mieux dangereux.
Et si la tempête ne finit pas ?
Oh, nous sommes en Écosse, les tempêtes ont toujours une fin. Après la suivante.
À propos du phare, je ne suis pas très doué non plus, mais à plusieurs, nous y arriverons. Il ne devrait pas y avoir de soucis, avec les instructions que j'ai trouvées.
Ah. Bon. Attendons une heure ou deux, resterons-nous, réchaufferons-nous, et lorsque nous serons à nouveau en pleine forme...
Resséchez-vous.
Et si jamais la tempête a baissé d'ici là, nous pourrions l'aller. Si jamais d'ici 2-3 heures, la tempête ne se calme pas à ce moment-là, peut-être pourrons-nous tenter une sortie.
Je profite de ce temps, si on décide de prendre le temps de se restaurer, pour faire connaissance, parce que finalement, nous ne sommes pas beaucoup présentés, et nous sommes compagnons d'infortune dans une aventure qui sera extraordinaire à raconter, dans le Herald d'ailleurs. Je ferai un article avec vos noms si ça ne vous dérange pas. Et je vous pose quelques questions sur votre vie, sur ce que vous... Voilà. Globalement, parfait. Comment vous vivez l'aventure. Madame également, si ça ne vous dérange pas que j'interroge aussi madame.
Absolument pas.
Voilà. Donc, pour le prochain temps, en tout cas...
Vous faites vos discussions, vous commencez à manger un petit peu. Si vous êtes motivé, vous avez même une table d'échecs. Et si vous êtes aguerri à ce sport, vous pouvez utiliser les pièces usées et complètement abîmées de ce vieux jeu d'échecs qui semble là plus par décoration que par un vrai usage. Et pendant ce temps-là, Bunny reste un petit peu en retrait. Elle s'occupe un petit peu de son intendance, telle qu'elle peut la faire dans le... Donc, vous voyez pas, c'est pas très radiophonique, mais elle commence à faire semblant de nettoyer les assiettes.
Il en reste là.
Et comme tu vois que les...
Vous voulez
premières...
lécher peut-être.
C'est indécent, madame. Vous devriez surveiller votre gouvernante.
Elle est un peu taquine.
Oui.
Rien qu'un peu, my lord.
Et comme nous sommes pas en 2020.
Et comme tu te rends compte, en fait, Monique, les couvertures utilisées sont encore complètement trempées, tu décides de monter à l'étage pour aller chercher d'autres couvertures. Et là, il se passe quelque chose quand même. C'est qu'au mesure, tu prends les couvertures, et pour toi, il y a quelque chose qui est tellement évident. C'est qu'il n'y avait pas qu'une seule personne sur place. Il y a trois lits, il y a trois armoires. Et tu commences à regarder, les différents vêtements, en fait, semblent effectivement appartenir à plusieurs personnes différentes. Même si c'est du type de vêtement de travail, c'est pas du vêtement très... Il y a différentes tailles. Tu te dis, s'il y a une personne qui porte les mêmes vêtements, il a eu un problème de poids entre les deux.
D'accord.
Et à côté d'une des étagères, tu trouves un petit carnet. Petit carnet à relier avec une lanière de cuir.
Que j'ouvre.
Que tu ouvres.
Bien sûr.
Il s'agit visiblement d'un journal intime.
D'accord. Que je lis. Je suis une bonne gouvernante, je lis.
Tu parcours un petit peu ce journal intime. C'est le journal d'un des gardiens du phare. Parce qu'effectivement, il explique comment fonctionne... le principe du phare, c'est une rotation sur 3 semaines. En fait, toutes les semaines, il y a un nouveau gardien qui retourne sur Terre. Et il n'y a aucun gardien qui reste plus de 3 semaines sur place. La prochaine relève était la semaine suivante. Et lui, il devait partir.
D'accord.
Il s'avère visiblement plutôt satisfait de partir, puisque il ne sait pas trop, mais il commence à se sentir un petit peu angoissé. Il l'écrit tel quel. Il a l'impression de voir des silhouettes fugaces dans son champ de vision, alors qu'il sait qu'il n'y a personne d'autre qu'eux sur cette île. Mmh. Et de temps en temps, il y a des voix, mais il n'est pas sûr que ce ne soit pas un écho. Il y a une espèce de doute, en fait.
D'accord.
Et puis soudain, plus rien. La dernière entrée se finit, il n'y a pas d'entrée suivante.
D'accord. Et il y a des dates sur l'entrée?
Oui. La dernière entrée, c'est la date d'hier.
D'accord. Mmh. Donc, juste pour récapituler, en termes de roulement, c'est 2 sur le continent, 1 sur le phare.
3 sur le phare tout le temps.
Voilà. 3 sur le phare tout le temps.
3 sur le phare tout le temps, et il y en a un qui est changé toutes les 3 semaines.
D'accord. Oui, donc minimum, on devrait avoir 3 gardiens de phare et pas un phare vide.
Tout à fait.
Ben, je continue à fouiller pour voir s'il y a d'autres. Je peux glaner d'autres infos.
Tu trouves pas grand chose en fait de plus. Effectivement, les affaires, il y a peut-être quelques petites menu-monnaies, éventuellement un briquet que tu retrouves dans une poche, mais rien de bien exceptionnel. C'était vraiment un dortoir destiné au sommeil plus qu'à autre chose.
Je récupère le briquet. Okay. Ça peut toujours être utile.
Oui, c'est un briquet tempête avec une espèce de cache sur l'extérieur pour pouvoir l'allumer même par gros temps.
Oui, donc encore plus. Donc je le prends et je redescends voir My Lord.
Vous n'étiez pas rendu compte que Bonnie s'était éclipsée comme ça. Vous étiez à vos discussions, à vos présentations. Mylord s'inquiète énormément de son alambic qui risque d'être posé sans lui.
C'est clair. Ce contretemps est extrêmement fâcheux.
Peut-être les secours arriveront-ils bientôt, rassurez-vous. Ce serait peut-être l'occasion que un retard d'une journée. L'alambic devait être posé quand exactement ?
Le jour de votre arrivée, en fait. Il vous attendait pour le poser.
En espérant qu'il vous attende dans ces cas-là.
Il y a intérêt à ce qu'ils m'attendent, déjà, mais ce contretemps est extrêmement fâcheux. Pour ce qui est des secours, je ne suis pas très rassuré. L'endroit est vaste, le nombre d'îles est immense. Ils ne penseront pas forcément à venir nous chercher ici. À nous de faire connaître notre position, notre présence, voire de trouver une solution pour partir par nous-mêmes. Mais l'épave, visiblement, n'est plus en état de reprendre la mer. Mm-hmm. Si j'ai bien vu ce gros trou dans la coque.
Il y avait un vrai gros trou dans la coque.
Ça n'aide pas. Ensuite, ce sera du long terme, mais réparable. Mais déjà, je pense qu'à ce bâtiment, l'œil à la lueur, peut-être trouvons-nous un moyen de communiquer. Il doit bien y avoir quelque chose.
Si c'est une chapelle, à mon avis, pas moyen de communiquer avec la Terre. Par contre, peut-être y a-t-il quelqu'un, un habitant, un des gardiens du phare présent, qui se serait réfugié pour je ne sais trop quelle raison. Peut-être il se promenait, a été surpris par la tempête et s'est réfugié là-bas en attendant que la tempête passe.
Je vois bien l'idée éventuellement. Est-ce que nous avons des lampes tempêtes justement ? On fouille un petit peu.
Il y en a quelques-unes effectivement. Il y en a une qui a l'air en bon état et pleine. Les autres, t'es pas sûr de la quantité qui reste à l'intérieur. Tu sais pas combien de temps elles vont continuer à brûler en fait.
Je vois bien l'hésitation d'essayer tout de même. Cette lueur avait l'air d'être distante de combien à peu près ?
Entre loin et bien loin.
Une heure ou deux de marche ?
Non, moins. Tu penses que c'est moins, mais t'es pas sûr, parce que c'est vraiment une lueur qui était diffuse et tremblotante. Avec la pluie, les distances sont assez faussées, donc t'es pas sûr en fait de ce qu'il y a pu.
L'île est petite de toute façon.
Oui l'île est globalement petite.
Avec une lampe tempête, en y allant à deux, il y aura toujours moyen quand même d'essayer si ça s'avère urgent. J'ai oublié quelque chose d'ailleurs, je vérifie également mon matériel, en particulier l'appareil photo et ma réserve de magnésium. Est-ce que tout est HS ou
Tu regardes, alors t'es nous son cuir qui est pas forcément étanche, mais t'as pas l'impression qu'il y a eu de choc particulier sur la lentille. La boîte a l'air d'être. Le coffre en fait de la chambre noire a l'air d'être intact.
D'accord.
Il n'y a pas l'air d'avoir pris beaucoup d'humidité. Ton magnésium, c'est une espèce de grande fiole en fait. Ça ressemble un peu à une flasque à whisky.
Ouais.
T'as l'impression qu'il n'y a pas justement de.
Pas
ça n'a pas pris en fait de l'humidité. Tu penses que ça peut fonctionner, il n'y a pas de souci.
Si ça ne vous dérange pas, messieurs, est-ce que je peux vous prendre une photo? Par exemple, si vous disputez une partie d'échecs, ça me fera une photo pour mon article.
Ben, ma foi, oui.
Faites donc.
Côté posé, au calme et intelligent, au milieu d'une tempête incroyable. Je pense que ça peut être intéressant comme papier.
C'est quelque chose qui est étonnant. Mm-hmm. Parce que Bonnie n'est pas encore arrivée pour nous parler du journal.
Si, elle redescend à ce moment-là à peu près.
D'accord, je leur dis, mais je trouve ça étonnant, quelque chose qui est étonnant quand même. Il y avait une seule assiette et il y a un jeu d'échecs. Quelque chose qui ne va pas dans ce lieu.
J'ai peut-être la réponse pour vous, messieurs. En me rendant à l'étage, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas un seul gardien de phare sur cette île, mais trois.
Trois ?
Oui.
C'est vrai qu'il y a plusieurs lits, nous n'avons pas fait attention tout à l'heure.
Oui.
Et plusieurs jeux de vêtements. Également. J'ai aussi découvert un journal du dernier gardien de phare. La dernière entrée date d'hier. Il devait être relevé de ses fonctions la semaine prochaine, mais celui-ci, depuis quelque temps, ne se sentait pas très bien au sein de ce phare. Il entendait des voix et il voyait des formes ou des ombres. Il n'est pas sûr de ce qu'il avance, mais en tout cas, il ne se sentait plus vraiment en sécurité au sein de ce phare.
Est-ce qu'il parlait de sa mère dans le journal ?
Je l'ai pris avec moi, si vous voulez l'étudier, je vous le confie.
Est-ce que ça ne vous évoque pas de la paranoïa, docteur ?
Alors, en tout cas, je trouve ça étonnant, c'est vrai. Quelque chose qui ne colle pas, qu'est-ce qui peut bien l'avoir effrayé à ce point ?
L'enfermement, ils sont sur des longues périodes, seulement trois hommes ensemble sur une petite île.
Trois semaines, est-ce qu'on peut appeler ça une longue période ? Et puis ce sont des hommes aguerris, normalement.
Si les tempêtes du coin ressemblent toutes à celles-ci, il faut bien admettre que c'est un peu que... Même moi, je ne me sens qu'assez peu rassuré, mais ensuite, je n'ai pas l'habitude comme ces personnes.
Par contre, si j'ai bien
saisi... Moi, ça va.
Donc,
tout va bien.
Il devait être relevé la semaine prochaine, enfin d'ici une semaine. Donc, nous avons une semaine sans navire qui viendrait ici. C'est une catastrophe.
Vous raterez l'alambic, mais au moins, nous savons que des secours arriveront quoi qu'il arrive.
Certes.
Mais au pire, demandez-leur de déceler l'alambic. Peut-être vous feront-ils cette faveur.
Monsieur Harrington parcourt le petit ouvrage Et toi, il y a quelque chose qui te choque en fait, c'est que tu parlais d'hommes aguerris principalement, et tu te rends compte qu'effectivement le ton change. C'est quelque chose que Bonnie ne pouvait pas forcément distinguer en le lisant, mais c'était plutôt formel au départ. C'était vraiment plus des rapports de journée de ce qui s'est passé. Et puis petit à petit, il a commencé à s'apesantir sur son ressenti. Comme si c'était devenu effectivement quelque chose de compliqué de vivre sur place. Donc lui, il est là depuis, il était visiblement là depuis au moins 3 semaines, enfin presque 3 semaines. Et c'est une espèce de paranoïa. Donc effectivement, tu te poses la question si c'est pas dû à l'isolement, si c'est pas quelque chose, mais ça te paraît quand même bizarre. C'est pas habituel.
Et puis qui sont quand même censés être 3, cet isolement. Bon, c'est vrai que c'est un isolement quand même, à 3 seulement, c'est très peu, mais. Oh, je trouve ça étonnant quand même d'être à ce point. D'avoir à ce point un ton qui change en seulement 3 semaines, quand même, c'est très rapide, hein, mine de rien. Enfin, 2 semaines, puisqu'il y avait encore une semaine.
Peut-être.
En 2 semaines.
Nous pourrons lui poser les questions quand nous le reverrons bientôt. À mon avis, je suis toujours sur l'idée qu'il devait être réfugié là-bas, de toute façon, pour une raison ou une autre.
Merci au point lumineux.
Alors, j'en profite pour prendre une photo de vous, tiens. Allez. Faites un peu. Smile.
C'est-à-dire et que le sourire n'est pas dans ma nature, c'est-à-dire que j'ai un sourire très pincé en fait.
Un sourire écossais, il est à l'envers, c'est ça?
C'est un peu ça.
D'accord.
Un sourire très intérieur.
C'est ça.
Et au moment où le flash retentit, tu te dis, mais. Effectivement, aller dehors, là, ça va être compliqué, on va pas bien voir. Mais si on allume le phare, bah, peut-être que la lueur du phare en elle-même va quand même éclairer un petit peu.
Oh, j'ai une idée.
Ça, c'est la lumière du flash qui fait « Oh, la lumière !»
J'ai une idée. C'est vrai que nous devrions peut-être allumer le phare, et si nous pouvons le diriger, peut-être pourrons-nous éclairer notre chemin jusque là-bas.
Eh bien, effectivement, il serait peut-être temps.
Vous avez retrouvé tout ce qu'il faut pour allumer ce phare ?
Oui, j'ai tout. Alors, je n'ai pas trouvé le matériel spécialement, mais je pense qu'il est là-haut. Il suffira d'aller voir.
Bah, faites donc.
Faisons.
Je vais vous servir d'assistant.
Allez, venez, monsieur Stanford.
Parfait, je vous accompagne pour vous observer.
Eh bien, venez.
Mes compétences scientifiques vous aideront peut-être.
Est-ce que Bonnie se joint à vous ?
Non, Bonnie ne se joint pas à eux. Je pense qu'ils sont assez de 3 pour venir à bout d'un phare.
Faites une partie d'échec.
Toute seule, ça va être compliqué. Mais par contre, j'entretiens le feu et je continue en fait à chercher des indices en fait sur la vie du coup de ces 3 gardiens de phare et ce qui a pu leur arriver pendant ces 2 semaines qui, somme toute, ont été assez compliquées.
Si vous trouvez d'autres vêtements pour vous protéger de la pluie, n'hésitez pas. Ce serait bien d'avoir au moins 2 équipements, je pense.
Si je trouve ça, je les mets de côté, bien entendu.
On va s'occuper du rallumage du phare dans un premier temps. Vous arrivez en haut et en fait vous rendez compte que dans la pénombre vous n'avez pas forcément vu l'agencement réel du truc. Vous avez des espèces de meubles bas en fait qui sont juste en dessous de la rambarde.
D'accord.
Dans lesquels vous avez un peu d'équipement. Donc il y a du bois qui visiblement a l'air quand même sec puisque la pluie ne passe pas sur la coupole en elle-même. Donc vous commencez à ouvrir sur le côté, donc c'est assez technique puisqu'il faut enlever la première loupe, faut charger à l'intérieur, faut rallumer, remettre la loupe pour pouvoir réactiver la lumière en fait du phare. Et vous vous rendez compte que c'est un système qui est quand même hyper ingénieux parce qu'avec peu de bois, ça fait quand même des lumières qui sont assez fortes.
Je profite aussi pour faire une photo justement des équipements. Je me dis que ça me servira pour plus tard. Raconter cette aventure.
Alors, tu sais que ton magnésium, t'en as pas des kilos et des kilos. Hein,
oui, c'est sûr. T'en fais encore 3 ou 4 de toute façon. Cette histoire de distillerie, j'avoue, pour l'instant, elle me passe un peu à côté.
Ok. Donc, tu fais une photo en fait des 2 autres qui sont en train de s'affairer à préparer. Mylord se salit un peu les mains.
Oh, mais moi, je me salis les mains tout le temps. Donc, ça me manquerait pas.
Sans problème.
D'accord. Bah, du coup, c'est moi qui fais l'inspecteur des travaux finis. Je lis le plan.
Au moment où tu reprends un peu de recul, alors tu tapes un peu le dos dans la rambarde, tu te rends compte qu'au sol, tu as des espèces de petites flaques, une espèce de liquide argenté qui brille.
Oh, du coup, je regarde un petit peu, je touche avec un stylo ou un crayon. Donc c'est du vif argent, du coup.
C'est du mercure, tout à fait.
Messieurs, il y a du mercure partout. Est-ce qu'il y a une fuite dans le système ?
Il faudrait regarder ça.
Faisons le tour, inspectons. Peut-être qu'il a quelque chose de cassé, que c'est pour ça que le phare ne fonctionne plus.
Alors, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais il y a des petits. C'est des flaques qui font la taille d'une grosse pièce d'or. Et penser que peut-être à l'usage, des fois avec le vent, il y a des gouttes qui peuvent s'échapper et que bon, si c'est pas nettoyé, ça reste sur place.
Vérifions tout de même au cas où, par prudence.
Et ça te fait penser à quelque chose quand même. T'as déjà entendu parler d'empoisonnement au mercure en fait, qui peuvent provoquer des hallucinations. T'es pas sûr, hein. Mais t'as déjà lu ce genre de choses et tu as déjà traité des gens contre ça.
Moi qui suis un grand biologiste et qui m'y connais bien en chimie aussi, ça me parle aussi. Non ?
Ça te parle effectivement beaucoup. Tu t'as déjà entendu parler de personnes qui pouvaient, par contact prolongé en fait, avec du mercure ou avec des vapeurs de mercure, pouvaient justement avoir des hallucinations assez réelles.
D'accord.
Messieurs, pour nous, il ne va pas avoir de danger dans les médias, mais il faudrait quand même y faire attention. Hein.
Je ne toucherai pas, merci pour le conseil.
Et le réservoir où est contenu le mercure, il est ouvert, il a l'air libre ou comment?
Alors effectivement, c'est la partie qui tourne, en fait, elle est posée sur l'espèce de coupole en dessous.
Ouais. Mmh.
Et la pression fait que le liquide vient affleurer de chaque côté.
Mmh.
Il y a un bidon. Quand vous l'avez pris, vous avez l'impression que c'est une sorte de mercure liquide qui est là pour prévoir, pour
recharger.
Recharger en cas de besoin.
Tu as vraiment été chercher le fonctionnement d'un phare de l'époque ou...
Ouais. C'est la technique, elle est sourcée. Hein.
Ah, j'avoue. Bravo.
Je vous expliquerai plus tard, mais c'est basé sur une histoire vraie, en fait, ce scénario.
Ce soir, on va tous être sur Wikipédia. Alors, comment fonctionne un phare
c'est
de l'époque?
Il y a... Vous avez une espèce de sensation un petit peu bizarre qui est là. La lumière a commencé à s'allumer. Vous avez le phare qui s'est lancé un petit peu, en fait. Vous avez réussi à donner une espèce d'inertie qui va se maintenir. Il faut le relancer un petit peu de temps en temps, mais globalement, ça se fait. Et la rotation, vous n'êtes pas aveuglé, en fait, quand la lumière passe, mais ça reste une lumière assez vive. Et vous avez l'impression d'avoir distingué une silhouette un petit peu plus loin, sauf qu'elle a l'air d'être un petit peu trop haut et un petit peu trop pas dans la coupole en fait.
Silhouette à l'extérieur?
Ouais.
Ah. À tout hasard, parce que moi je découvre cette partie du phare, il n'y a pas une paire de jumelles, une longue vue qui traîne à tout hasard?
Il y a effectivement une paire de jumelles qui est accrochée juste au-dessus. Donc tu peux là.
Je m'en empare et effectivement j'essaye de regarder dans la direction et j'essaie de retrouver ce qu'on vient d'apercevoir.
Alors t'as pas forcément besoin en fait des jumelles, aller à 4-5 mètres de toi.
Oui, pardon.
Du coup on regarde en plissant un peu les yeux tout de même pour voir quoi.
C'est une espèce de silhouette féminine, légèrement blanchâtre, qui semble flotter à quelques mètres.
Est-ce que vous voyez ce que je vois ou...
J'ai l'impression.
Il me semble bien voir une silhouette flotter.
Je lève mon appareil photo et j'appuie sur le flash. Tant pis, c'est pas grave pour la dose de magnésium. Mais okay. Du coup, c'est vrai que c'est dans le noir, donc faire un gros coup de lumière.
Tu sais qu'un appareil photo d'époque, faut le recharger, ça te prend un petit peu de temps.
Ah, d'accord.
Tu commences à te préparer et vous regardez cette silhouette. Mm-hmm. Vous avez l'impression qu'elle est. Rempli d'une profonde tristesse. Vous avez l'impression de l'entendre gémir très légèrement. Et elle se retourne vers vous. Vous voyez un visage de femme, effectivement, avec les larmes qui coulent sur son visage. Vous avez l'impression qu'elle essaie de parler. Vous voyez sa bouche bouger. Mais vous n'avez pas de... Il n'y a pas de son. Et la silhouette chute.
Oh.
Et disparaît.
On a une rambarde extérieure.
Oui, vous avez une rambarde extérieure.
Est-ce qu'il y avait un nom de femme sur un type de journal?
Non, il n'y avait pas de nom, il y avait juste le nom du bateau.
Ouais.
Moi, je me précipite à l'extérieur déjà, tant pis pour la pluie, je regarde en bas en direction de la chute.
Il n'y a rien. Rien que la nuit noire, le sol.
En la voyant tomber, je hurle un Brinkelpeert.
Tu n'as pas l'impression qu'il se passe quelque chose, et puis quelques instants après, t'entends une toute petite voix. Tu penses qu'il y a que toi qui l'as entendu, t'es pas sûr. C'est juste, aidez-le.
Je me fige sur place.
Laissons les voix se remettre de leurs émotions pour ce soir. J'espère que cette émission vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour arpenter et entendre à nouveau les voix du scénarium.
Radio G 101.5 FM.